بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui le dimanche le 16 du mois Dhul Qa'da de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 3 mai 2026. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour poursuivre ensemble notre lecture de cette risala très bénéfique et très profitable qui a été adressée par l'imam Ibn al-Qayyim à un de ses frères. Et on a parlé dans notre dernière rencontre du hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam a dit Hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tayyib wa ju'ilat qurratu 'ayni fi as-salat. Donc le Nabi alayhi salam nous informe dans ce hadith que Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait aimer de ce bas monde deux choses: les femmes et le parfum. Et il a fait que la chose qu'il aime le plus, c'est la salat. La chose qu'il aime le plus, c'est la salat. Et il l'a exprimé d'une manière difficile à traduire en français. Parce que vous savez que l'amour en arabe, c'est énormément de degrés, jusqu'à arriver au degré de l'amour le plus élevé, qui est le degré de l'khulla. L'khulla. En général, quand ils traduisent le khalil, ils traduisent par l'ami intime. Lakin l'khulla, c'est celui qui aime quelqu'un ou quelque chose au degré le plus élevé de l'amour. Et ce degré n'admet pas le partage. C'est-à-dire celui qui aime quelqu'un à ce niveau-là, il ne peut l'aimer que lui seul. Son amour va remplir son cœur. Il n'y aura pas de place pour autre chose. Et tout ce qu'il va aimer, en dehors de ce bien-aimé, à ce degré le plus élevé de l'amour, tout ce qu'il va aimer en dehors de lui, il va l'aimer pour lui. Et ce degré, comme vous savez, n'a été atteint que par deux hommes, Ibrahim alayhi salam et notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Khalila ar-Rahman. Il n'y a que ces deux hommes-là qui ont atteint ce degré-là. Lakin Nabi alayhi salam nous dit ici wa ju'ilat qurratu 'ayni fi as-salat. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que la salat est comme la prunelle de ses yeux. Yani, c'est un degré d'amour très élevé qu'il a pour la salat. Et ce degré d'amour ne peut avoir lieu que pour les choses qu'on aime pour elles-mêmes. Vous savez qu'on peut aimer une chose pour elle-même et on peut aimer une chose pour autrui. Donc ça, cet amour élevé ne peut avoir lieu que par rapport à ce qui est aimé pour lui-même. Et vous, comme on a vu, Allah subhanahu wa ta'ala, il est le seul qui est aimé pour lui-même. Tout le reste doit être aimé pour Allah, en Allah subhanahu wa ta'ala, et pour Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah l'aime, ou Allah a ordonné de l'aimer, et tout ce que Allah a ordonné d'aimer, forcément Allah l'aime. Yani, parmi les choses avec lesquelles on reconnaît les adorations, ce que Allah a ordonné, ce que Allah nous a dit qu'il aime, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça d'ailleurs que salat était pour le prophète alayhi salatu wassalam, le moment de la salat était un moment de quiétude et de sérénité et d'apaisement et de dévotion complète. Car il avait cette science d'Allah subhanahu wa ta'ala qui lui permettait d'arriver à ce degré, et il avait d'autres éléments qui lui permettaient d'atteindre ce degré dans la salat. Et c'est d'ailleurs de ça que va nous parler aujourd'hui l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala. Comment arriver à ce degré dans notre salat? Comment sortir de la pratique de la salat comme une habitude, sans khushu', sans concentration, sans méditation de ce qui est dit dans la salat, depuis At-Takbir, et même avant. Vous savez que Salaf, comme Ali radiallahu anhu, yani la préparation pour la salat, ça a commencé pour lui avant même la salat. Yani, il le voyait des fois pâle. Et il lui demandait « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Il leur disait « Vous savez devant qui je vais être dans quelques instants ?» Il va être devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vous laisse vous imaginer si on vous dit que vous allez être invité dans le palais d'un grand roi de la terre ou là. Comment la personne sera? Alors, que dire d'être devant le roi des rois, le roi absolu, le maître suprême, Allah subhanahu wa ta'ala? Donc, il va citer 6 points et il dit que celui qui regroupe ces 6 points arrivera à ce degré de la quiétude et de la concentration et enfin de prendre plaisir dans la salat. C'est plus, yani, salat, c'est plus seulement pour lui une obligation de laquelle il s'est acquitté et en quelque sorte il s'est débarrassé. Alhamdoulilah, j'ai fait mon devoir. Non, la fin de la salat peut devenir une source de tristesse pour lui, parce que c'est la fin d'un moment de grand plaisir et de grand bonheur, la fin de la salat. Le premier de ces points qu'il a cité, il a dit « Al-mashhad al-awwal, al-ikhlas ». Donc c'est la base des bases dans notre religion. La chose la plus importante dans cette religion, c'est l'ikhlas, la sincérité. C'est d'accomplir cette salat pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et non pas par intérêt mondain, pour le respect, pour l'admiration, pour l'estime des gens, pour l'argent. Lakin, de la faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. La sincérité. La sincérité, il faut savoir que ce n'est pas une mince affaire. C'est pour ça que l'imam Shafi'i a dit « Il ne connaît l'ostentation, l'opposé de la sincérité. Il ne connaît l'ostentation que l'homme sincère. L'homme qui est sincère, quand il est touché par l'ostentation, il le réalise. Mais celui qui est baigné presque en permanence dans l'ostentation, pour lui, c'est normal. C'est pour ça que vous voyez les gens qui n'apprennent pas la religion. En général, ils parlent souvent de leurs bonnes actions. Et ils embellissent ça par quelques expressions, avant ou après. Alhamdulillah, Allah m'a permis de faire une bonne action. Alhamdulillah, hier, Allah m'a permis de faire qiyam al-layl. Alhamdulillah, et ainsi de suite. Et si je vous demande de me citer des bonnes actions de Abu Bakr al-Siddiq, en général, on ne connaît pas beaucoup de ses bonnes actions. Même comparé aux autres compagnons. Alors que cet homme, à lui tout seul, sa foi dans la balance, elle est plus lourde que la foi de toute la communauté, y compris tous les compagnons jusqu'à la fin des temps. C'est pas étonnant. Yani, ça, si ça indique quelque chose, ça indique qu'il doit avoir beaucoup de bonnes actions. Radiallahu anhu. Lakin, si on sait que lui, c'est lui qui a appelé 5 parmi les 10 annoncés au paradis dont il fait partie. Les 10 annoncés au paradis, les 10 meilleurs hommes de cette communauté, les 10 premiers qui sont entrés en islam, يعني pas tous لكن 8 il y en a 8 parmi ces 10 qui sont les premiers en islam. Il y en a Omar radiallahu anhu, il ne fait pas partie des premiers qui sont entrés en islam. Il est entré beaucoup plus tard. Lakin, pour ça, ça nous indique aussi que dans l'islam, c'est pas par l'ancienneté, c'est pas par l'âge, c'est pas lakin, c'est par la sincérité et le travail pour cette religion. On peut trouver quelqu'un qui est musulman une seule journée après, il retrouve son créateur. Et meilleur auprès d'Allah que quelqu'un qui a vécu 100 ans dans l'islam. Donc, Abu Bakr radiallahu anhu, c'est lui qui a appelé 5 parmi les 8 premiers qui sont entrés en islam. Et vous savez, celui qui est la cause d'un bien, celui qui a appelé à une guidée, il aura sa récompense et la récompense de tous ceux qui vont le suivre sur cette guidée, jusqu'à la fin des temps. Donc, ce n'est pas étonnant que sa foi soit plus lourde dans la balance que la foi de toute la communauté. Car il a appelé 5 parmi les 8 premiers qui sont entrés en islam. Lui, il est le sixième. Lui, il est le sixième des 6 premiers dans l'islam. Et après, nous avons Khadija, radiallahu anha, et Ali ibn Abi Talib et Zayd ibn Haritha. En plus de 5 qu'il a appelé à l'islam, ça fait 9. En le comptant lui, Abu Bakr al-Siddiq, Khadija et Ali et Zayd ibn Haritha, les trois étaient ils vivaient dans le foyer du prophète, dans la maison du prophète. Donc c'est les premiers ou là parmi les premiers. Lakin, pour sortir des divergences, les hommes de science disent Abu Bakr, c'est le premier homme qui est entré en islam. Khadija, c'est la première femme qui est entrée en islam. Ali, c'est le premier enfant qui est entré en islam. Et Zayd ibn Haritha, c'est le premier homme qui était esclave et puis affranchi par la suite, qu'on appelle Mawali, qui est entré en islam. Donc, Hadou, c'est les premiers, sans aucune divergence. Après, c'est qui le premier d'entre eux? Est-ce que c'est notre mère Khadija ou Ali? Il n'y a pas grand intérêt. Tous, ils ont un mérite immense. Radiyallahu anhum wa ardahum. Donc, l'imam Shafi'i dit, il ne connaît la sincérité, il ne connaît l'ostentation que l'homme sincère. La ya'rifu ar-riya illa mukhlis. Amma celui qui ne connaît pas la sincérité comme il faut, il peut tomber dans l'ostentation sans se rendre compte. Que dire que l'ostentation est une chose tellement subtile. C'est tellement subtil. En la décrivant, Nabi Assalam a dit, Ria l'a dit, c'est plus subtil que les pas d'une fourmi. Alors, vous imaginez une fourmi quand elle marche, les traces de ses pas. C'est plus subtil que les pas d'une fourmi sur un rocher lisse, dans une nuit obscure. Qu'est-ce que tu vas voir de ça? Pour ça, quand Abu Bakr radiallahu anhu a entendu cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui enseigner une invocation afin de la dire pour se prémunir de l'associationnisme et de l'ostentation qu'il a pu commettre sans se rendre compte. Et c'est là, il était la cause de cette dua que théoriquement, personne ne doit ignorer et tous on doit la répéter souvent. Si Abu Bakr a besoin de la dire, cet homme sincère, cet homme le véridique au summum de la sincérité, alors que dire de nous? Il lui a dit de dire Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Wallah, je cherche refuge. Je te demande protection et je cherche refuge auprès de toi contre l'associationnisme dont j'ai connaissance. Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam, de te donner un associé sciemment. Wa astaghfiruka lima la a'lam, et je te demande pardon pour l'associationnisme que j'ignore, dans lequel je suis tombé. Cette invocation, normalement, vous la trouvez dans la citadelle du musulman, ou là dans les fascicules dans lesquels il y a les invocations que doit répéter le musulman quotidiennement. Vous savez, Aïkhwa, dhikr, c'est l'adoration la plus méritoire en islam. Al-dhikr. Dhikr, conformément à la guidée du prophète, alayhi sallam, et non pas comme le font Sofia. Dhikr, comme le faisait le Nabi, alayhi sallam. C'est-à-dire que tu apprennes les invocations qu'utilisait le Nabi, alayhi sallam, et de les dire au moment où il les disait. Le Nabi, alayhi sallam, disait des invocations toute sa journée. Nous avons les invocations du matin, les invocations du soir, les invocations du matin après Adhan al-Fajr, jusqu'au lever du soleil. Lakin, celui qui n'a pas pu les dire avant, il peut les dire après. Lakin, leur temps, c'est ça. Et les invocations du soir, après Salat, après Adhan de l'Asr, jusqu'au coucher du soleil. Car après le coucher du soleil, c'est la nuit. Ce n'est plus les invocations du soir, c'est les invocations de la nuit. Et nous avons des invocations qu'on dit la nuit également, après le coucher du soleil. Et nous avons des invocations que nous disons avant de dormir, quand la personne, yani, va dans son lit pour dormir. Ça, c'est des protections pour le croyant contre les différents maux dans toute sa journée. Et nous avons les invocations que nous répétons après les 5 salawats obligatoires. Les invocations que nous disons avant de manger, après avoir mangé, boire, lors du voyage, le retour du voyage. Dans toutes les circonstances, Nabi alayhi sallam invoquait et évoquait son Seigneur. Taïb. La première station qu'il a mentionnée ici, c'est la station de la sincérité. Il a dit, « Wa huwa » أن يكون الحامل عليها والداعي إليها رغبة العبد في الله ومحبته له وطلب مرضاته. Donc il a expliqué, il a détaillé cette sincérité qui est le premier point fondamental pour arriver, pour retrouver cette quiétude et cette sérénité lors de notre salat. Et d'ailleurs, ça, c'est une condition pour l'acceptation de toute adoration. L'adoration dans laquelle il n'y a pas de sincérité, Allah ne l'accepte jamais. Allah Azza wa Jalla dit dans le hadith al-Qudsi, Ana aghna ash-shuraka'i 'ani ash-shirk. Man 'amila 'amalan ashraka fihi ma'i ghayri, taraktuhu wa shirka. Allah dit, je suis celui qui se passe le plus des associés. Celui qui commet, celui qui fait une œuvre dans laquelle il me donne un associé, celui qui fait l'ostentation, il veut plaire à Allah et plaire à la créature. Ça, c'est une forme d'associationnisme mineur qui ne fait pas sortir de l'islam, mais il est plus grave que tous les grands péchés. Shirk, c'est un degré de gravité supérieur à celui de tous les grands péchés. Comme vous savez, l'ordre de gravité décroissant des péchés, nous avons au sommet al-shirk al-akbar, l'associationnisme majeur qui fait sortir de l'islam, qui consiste à vouer une adoration comme l'invocation, l'immolation, le sacrifice à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, nous avons shirk mineur. Mineur, pas pour minimiser sa gravité, lakin, il ne sort pas de l'islam. Lakin, il reste plus grave que la fornication et riba, et ainsi de suite parmi les grands péchés. Et c'est un moyen pour l'associationnisme majeur. C'est pour ça que celui qui fait de l'ostentation toute sa vie, en général, il sort de l'islam. Forcément, il va tomber dans l'associationnisme. Celui qui ne connaît pas d'adoration pour Allah, tout ce qu'il fait, il le fait pour autre qu'Allah. Pour ça, l'associationnisme mineur, c'est le peu d'ostentation de laquelle presque aucun croyant n'est épargné Lakin le mu'min, il fait des efforts pour être sincère, pour combattre cette envie de faire pour plaire aux gens, ou là pour des raisons mondaines. La sincérité, c'est de faire pour Allah. Faire toute autre intention nous fait sortir de la sincérité. Et le mu'min, il cache, ça j'ai oublié de le mentionner quand on a parlé de Abu Bakr Siddiq, lakin le mu'min, il cache ses bonnes actions surrogatoires, au maximum. Amma, les adorations obligatoires, on les cache pas, on les fait devant tout le monde, afin qu'on pense pas du mal de nous. Lakin, les adorations surrogatoires, la guidée du prophète, c'est de les cacher, sauf quand il y a un intérêt spécifique à montrer cette adoration. Yani, c'est pas comme on voit chez certaines sectes égarées, comme ceux qui se font appeler les frères musulmans, ils font des jeûnes surrogatoires en groupe, des ruptures en groupe. Ces choses-là n'existaient pas chez les compagnons. Il n'y avait pas de jeûne en groupe. Il n'y avait pas de surrogatoire. Le jeûne de Ramadan, non. Ah ben le jeûne surrogatoire, il ne le faisait pas en groupe. Ou il faisait des ruptures en groupe. Ça n'existait pas chez les compagnons. Et rappelez-vous toujours, à chaque fois que vous trouvez une chose, vous pensez, mais il n'y a pas de mal en réalité. Du moment que c'est dans le domaine du religieux, si c'est dans le dunya, il n'y a pas de mal. On est d'accord. Lakin, si c'est dans le domaine de l'adoration, le bien, c'est ce que sahaba ont fait. Gardez toujours ce critère. Le bien, la meilleure guidée, c'est la guidée du prophète et de ses compagnons. Et s'il y avait un bien à faire des ruptures en groupe, ils l'auraient fait. C'était possible pour eux de le faire. Il y avait plus de besoins. Aujourd'hui, on est tous riches. Tous, on a des frigos remplis. Le plus pauvre d'entre nous, il a des frigos remplis. Alors que eux, ils pouvaient ne pas trouver à manger pendant plusieurs jours. Donc, qui avait besoin plus de faire des ruptures en groupe? Nous ou eux? Bien sûr, eux, ils ne l'ont pas fait. Et ça, c'est une règle qui vous donne une bonne compréhension de votre religion. C'est pas pour rien que le Nabi alayhi salam, dans chaque khutbah de Jumu'a, il répète khutbah al-Hajj. Khutbah al-Hajj, c'est un enseignement de la méthodologie dans la compréhension de la religion. Khutbah al-Hajj, c'est un discours magnifique. Il y a un homme arabe, un pur arabe, qui a entendu ce discours. Il est entré en islam directement, à l'époque du prophète alayhi salam. Il a dit, ça ne ressemble pas à ce que les hommes disent. Et pourtant, c'est un discours du prophète, alayhi salam. Hadith prophétique est une révélation d'Allah, comme le Coran. Lakin, c'est l'essence seulement qui s'en révèle. Et les termes, c'est les termes du prophète, alayhi salam. Amma le Coran, tout est révélation d'Allah. Les termes et l'essence. Et le prophète, alayhi salam, ne fait que transmettre la parole telle qu'elle a été révélée. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran al-Karim. Et dans Khutbah al-Hajj, il disait « وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ » Chaque vendredi, il le répète ça. Aujourd'hui, la plupart des imams ne disent pas Khutbah al-Hajj au début de leur prêche, au début de leur discours, au début des événements importants. Nabi Assalam, il le disait aussi pour au début du mariage, avant de contracter un mariage, il le disait dans les affaires importantes. C'est une sunna. Et c'est un excellent rappel également. Donc, la règle de base dans ce que tu fais comme adoration surrogatoire, c'est de le cacher. Amma, les obligations, ça se pratique devant tout le monde. Zakat, tu la sors devant tout le monde. Amma, sadaqa, tu la fais en cachette. C'est pour ça, un des sept qui seront sous l'ombre du trône d'Allah, le jour où il n'y aura pas d'ombre, à part cette ombre-là, un des sept, un homme qui a fait une aumône, et dans la main qui a donné, la main droite, et que dans la main gauche, ne sait pas ce que la main droite a donné. Tellement il l'a caché. Ça, c'est une métaphore. Yani, tellement il a caché sa bonne action que sa main gauche, ne sait pas ce que la main droite a donné. Vous savez, il y a des salafs qui ont jeûné toute leur vie. Et leurs épouses ne savaient jamais qu'ils jeûnaient, le jeûne surrogatoire. Chaque matin, il sort travailler, il sort avec lui son repas du midi. Il revient chez lui le soir. Elle pense qu'il a mangé. Il sort, il le donne fisabilillah. Et le jour où il ne jeûne pas, il le mange le midi. Yani les adorations surrogatoires, il est demandé de les cacher dans la mesure du possible. Sauf quand on veut donner l'exemple. Là, quand on veut donner l'exemple, on a plus de mérite, mais on s'expose à plus de dangers. Est-ce que vraiment tu veux donner l'exemple ou là tu veux montrer tes adorations? Yani, il y a plus d'efforts à faire. C'est pour ça qu'il y a plus de mérite. Là, c'est plus simple de cacher. Taïb Hadawa, le premier point qu'il a mentionné ici, c'est la sincérité. Il a expliqué, il a dit que la chose qui te pousse à faire l'adoration, à faire la salat, on parle de salat, et que ce soit l'envie du serviteur de se rapprocher de son Seigneur et son amour et l'amour qu'il a pour lui. Yani l'amour d'Allah, c'est ça qui te pousse à faire cette salat. Et l'envie de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et la demande de sa satisfaction et de son agrément et de sa proximité. Car plus tu fais d'adoration, plus tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus Allah subhanahu wa ta'ala se rapproche de toi avec son aide et son soutien et avec tous les sens de sa seigneurie. Et tu te rapproches et tu renforces ton alliance avec Allah. Tu deviens un allié d'Allah. Chaque croyant est un allié d'Allah. Mais l'alliance avec Allah, elle est de degré les uns au-dessus des autres. Plus ta foi augmente, plus ta piété et ta crainte d'Allah augmentent, plus tu deviens fort dans cette alliance avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. C'est qui les alliés d'Allah? C'est pas ceux qui se font appeler les alliés d'Allah. Là, on ne sait pas qui est l'allié d'Allah. Même parmi les signes de l'allié d'Allah, c'est que personne ne sait qu'il est un allié d'Allah. C'est pas là où il y a un mausolée ou là où on fait du shirk. On parle de l'alliance, la vraie, le wala et walayatullahi azza wa jal, qu'avaient les compagnons, qu'avaient tous ceux qui les ont suivis fidèlement sur cette voie, la voie de la vérité, l'islam authentique, tel qu'il a été révélé. Coran et Sunna avec la compréhension des compagnons. Coran et Sunna avec la compréhension des compagnons. Et si tu as cette mesure, cette balance, tu peux par toi-même identifier les innovations. Yani, toujours tu as ce repère, tu as cette référence qui est les compagnons, radiallahu anhu. C'est pour ça que les innovateurs, ils ont du mal. Ils rejettent ce point. Ils disent non, on ne doit pas se limiter à la compréhension des compagnons. Pourquoi on se limite à la compréhension des compagnons? Ce sont des hommes et nous sommes des hommes également. Oui, mais c'est pas pareil. Allah al-Musta'an. Il y a des hommes qui osent dire des choses comme ça. Et après, c'est ça qui va, en développant ce point, ils vont arriver à la nouvelle lecture de l'islam, l'adaptation des textes à l'époque. Et c'est ça, c'est des choses qui plaisent aux gens. Il y a qui n'y savent pas que ça, c'est l'annulation de la religion de l'islam. Si on suit cette voie, on arrivera à tout supprimer de la religion de l'islam. Il y en a, en réalité, eux, l'adaptation de laquelle ils parlent, c'est d'adapter la religion aux envies des hommes. C'est d'adapter la religion aux envies des hommes. Yani, c'est les gens qui sont devenus corrompus. Et c'est les sociétés qui sont devenues perverties. On ne va pas adapter la religion à des gens pervertis. On va leur dire, revenez à votre nature humaine saine. Revenez à la vérité. Et vous n'aurez pas besoin d'adaptation. La religion, c'est la religion d'Allah. Les gens, ils ne parlent pas d'adaptation de machine fabriquée par des hommes. Alors que dire de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, omniscient, omnipotent. Il sait que cette religion sera valable et sera valable pour jusqu'à la fin des temps. Il n'y a pas besoin d'adapter. Il y a besoin seulement de la mettre en pratique et de la suivre et de bien la comprendre comme elle a été comprise par les compagnons. Qu'Allah les agrée tous. Et dans la religion, nous avons deux types de questions. Des questions qu'on appelle des fondements, invariables selon le temps et l'époque ou l'endroit. Et nous avons d'autres questions qui sont des efforts d'interprétation des hommes de science. En réalité, c'est pas... Par exemple, je vous donne un exemple de quelque chose qui est invariable dans la religion. L'interdiction de l'alcool, l'interdiction de l'usure bancaire, riba, l'interdiction de la fornication. Ça, c'est des choses qui ne peuvent jamais changer jusqu'à la fin des temps. Lakin, si l'imam Malik, à son époque, a fait un effort d'interprétation par rapport à une question nouvelle, à son époque, avec sa compréhension de la religion et avec les éléments qu'il a entre les mains. Si les choses évoluent et que la situation des gens change, les hommes de science peuvent avoir un effort d'interprétation différent de celui de l'imam Malik. Lakin ça, ce n'est pas les choses qui sont basées sur des textes, c'est les choses qui sont basées sur les efforts personnels des hommes de science par rapport à certains événements nouveaux. Hado, on les appelle en arabe al-mutaghayyirat. Pour ça, nous disons, dans la religion, nous avons al-thawabitu ou al-mutaghayyirat. Al-thawabit, ce sont les choses invariables. C'est la croyance, c'est les adorations. Salat ne va pas changer. Elle va rester toujours la salat. Et aussi les interdits basés sur les textes. Lakin, d'autres choses peuvent changer, car à la base, ce n'est pas basé sur un texte, c'est basé sur un effort d'interprétation d'un grand savant par rapport à certains éléments. Si les éléments changent, bien évidemment, le jugement va changer. Si les éléments changent, le jugement va changer. Allez, je vous donne un exemple. Avec l'apparition de la cigarette. La plupart des hommes de science n'ont pas dit que c'était interdit. N'ont pas dit que la cigarette était interdite au début. Car ça reste une plante, c'est pris d'une plante, ou kada. Pourquoi je vais l'interdire? Jusqu'à ce que ça ait été démontré que le tabagisme est dangereux pour la santé. Et en plus, c'est un gaspillage d'argent. Et le fatwa, aujourd'hui, des hommes de science, et tous les savants dignes de confiance, disent que fumer est interdit. Et même les fabricants de la cigarette, ils disent « fumer tue ». Avant, ils ne le marquaient pas. D'abord, pour se désavouer de leurs clients, ils leur marquent ça sur le paquet. Et subhanallah, malgré cela, il y a beaucoup de gens qui fument encore. Malgré qu'ils voient les images et kulchi sur le paquet, ils continuent à fumer. Et on peut se demander, mais quel intérêt à fumer? Le seul intérêt qu'il y a dans la cigarette, c'est un intérêt médiatique qui a été véhiculé par les films. L'image de l'héros, le batal, qui fume, ça a été fait sur plusieurs années et ça fait effet encore aujourd'hui. والقرب منه والتودد إليه وامتثال أمره également la sincérité aussi c'est de vouloir se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala et à ses ordres بحيث لا يكون الباعث له عليها حظا من حظوظ الدنيا البتة. Donc la sincérité, c'est que ce qui pousse le serviteur à faire cette salat, ce ne soit aucun intérêt mondain. Qu'il n'ait aucun intérêt mondain à faire cette salat. Il l'a fait seulement pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, pour se soumettre à ses ordres, pour faire ce qu'il lui a ordonné de faire, pour se rapprocher de lui davantage avec ce qu'il aime, subhanahu wa ta'ala, et non pas des intérêts mondains. Yani, si quelqu'un fait la salat, parce que c'est bon pour la santé, il n'aura pas de récompense, il aura une bonne santé. Il aura, subhanallah, Allah, il est tellement juste, il est, subhanahu wa ta'ala, juste, il donne à la personne ce qu'elle a voulu. Celui qui fait une chose pour la célébrité, pour devenir connu, star, wachi, Allah, il lui donne ça. Donc, il n'y trouvera rien auprès d'Allah. Il jeûne, il fait la salat, comme un moyen d'entretenir sa santé, il aura l'entretien de sa santé. Lakin, l'intention avec laquelle il doit faire ses adorations, c'est pour se soumettre aux ordres d'Allah, car Allah les a ordonnés. Et pour se rapprocher de lui, avec ce qu'il aime et ce qu'il a légiféré. Et pour plaire à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ainsi de suite, parmi toutes ces bonnes intentions. Maintenant, la question que quelqu'un peut poser, si moi je fais ma salat, sincèrement pour Allah, et j'espère également, yani avec les gestes que nous faisons dans la salat, yani j'espère un entretien de la santé. Il n'y a pas de mal, étant donné que l'intention première, elle a ces choses-là. Que tu les souhaites ou pas, tu vas les avoir. Tu vas les avoir, de toute façon. Il a dit bal ya'ti biha ibtigha'a wajhi rabbihi al-a'la mahabbatan lahu wa khawfan min 'adhabihi wa raja'an li maghfiratihi wa thawabihi. Donc il accomplit cette adoration en voulant la satisfaction de son Seigneur, en visant la face de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une expression pour indiquer la sincérité. Par amour et crainte de son châtiment et espoir de son pardon et de sa récompense. Là, remarquez qu'il a mentionné les trois piliers de l'adoration du cœur que tu dois avoir dans toute adoration, qui sont indispensables dans toute adoration. Toute chose que tu fais, toute adoration que tu fais est basée sur trois piliers dans le cœur. Ces trois piliers de l'adoration du cœur, il y en a l'adoration des membres, c'est la conséquence obligée de l'adoration du cœur. La base, c'est le cœur. Et donc, quand il y a l'amour d'Allah, tu vas vouloir faire ce qu'il aime. Et aussi, quand tu as la crainte d'Allah et la peur d'Allah et de son châtiment, tu ne vas pas délaisser ce qu'il t'a ordonné de faire, car tu t'exposes à la menace de son châtiment. Et quand tu espères sa récompense, tu sais que c'est le moyen d'arriver à la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'ajr wa thawab. Donc ça, c'est les trois piliers de l'adoration qui doivent être présents dans toute adoration. Est-ce que vous avez des questions ou vous voulez qu'on passe au deuxième point ? Ça, c'est le premier, la sincérité. Ensuite, il a dit المشهد الثاني مشهد الصدق والنصح وهو أن يفرغ قلبه لله فيها ويستفرغ جهده في إقباله فيها على الله. Donc, la deuxième station que tu dois avoir pour arriver à ce que la salat soit comme la prunelle de tes yeux, une chose que t'aimes au maximum, une source de joie et de bonheur. Le premier point, c'est la sincérité. Le deuxième point, il a dit as-sidqu wan-nashu, la véracité et le conseil. Il va expliquer ce qu'il veut dire par les deux. La véracité et le conseil, an-nashu. Il a dit, c'est de libérer ton cœur et ton esprit de toute autre chose que de cette adoration que tu accomplis pour Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, dans ta salat, tu ne penses pas à autre chose que ta salat. Et tu fais les efforts pour être concentré dans ta salat sur ce que tu dis. Ça nécessite de comprendre ce que tu dis. Allahu Akbar. Allah est plus grand que toute autre chose. Dès que tu dis Allahu Akbar, veille à ne pas être un menteur dès le début, comme il dit Ibn al-Jawzi. Veille à ne pas être un menteur dès le début de ta salat. Tu dis Allahu Akbar, mais en réalité tu penses à beaucoup d'autres choses que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah, il n'est pas le plus grand. S'il est le plus grand, tu vas délaisser tout le reste avec ce geste. Yani Allahu Akbar, comme si tu laissais tout derrière toi. Et t'es face à Allah subhanahu wa ta'ala. Et t'es face à lui réellement, comme il convient à sa grandeur et sa majesté. Car Allah ne ressemble en rien à ses créatures. Lakin, t'es devant Allah réellement. Donc tu dis Allahu Akbar. T'as tout laissé derrière toi. Dunya, les factures, les problèmes des enfants, l'épouse. Kulchi derrière le dos. T'es dans salat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Il est le seul qui mérite l'adoration. Car il est le plus grand. Il est le plus grand dans tous ses sens, dans tous ses noms et ses attributs. Car il a atteint le summum de la perfection dans tous les noms et dans tous les attributs. Allah, il est le plus grand dans son essence. Car il est plus grand que toutes ses créatures. Allah, il est le plus grand dans sa législation, dans ses ordres, dans ce qu'il a ordonné, dans ce qu'il a interdit, dans sa sagesse. Donc si tu sais qu'Allah t'a demandé de faire une chose, ne commence pas à venir avec certains raisonnements. Allah, il est le plus grand dans sa sagesse. Et il connaît ton bien mieux que toi, tu le connais pour ta personne. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Comme Allah dit dans le Coran. Allah sait, vous ne savez pas. Car l'idée que tu te fais d'une chose, elle est basée sur quelques éléments. Et elle n'est pas basée sur la science absolue que détient Allah subhanahu wa ta'ala. Le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est basé sur tous les points de vue. Et peut-être que toi, tu juges la chose d'un seul point de vue, ou là de deux, ou là de trois. Allah, son jugement, c'est par rapport à tous les points de vue. Et une chose qui t'aide énormément dans ta religion, c'est de savoir que l'intérêt et le profit des adorations, c'est pas... Il y en a les gens, pourquoi des fois ils vont faire passer un intérêt mondain sur un intérêt religieux? Car l'intérêt, c'est seulement l'intérêt mondain pour eux. Le plus grand intérêt, le plus grand profit, c'est le profit dans l'au-delà. Et c'est pour ça, le plus grand profit, c'est d'être dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Bakr radiallahu anhu, il a représenté ces sens-là à la perfection, à l'excellence. Vous savez, après la mort du prophète, alayhi salam, juste avant sa mort, il a formé une armée pour attaquer les Romains. Car les Romains s'apprêtaient à attaquer les musulmans dans la péninsule arabique. Et le prophète alayhi salam voulait les impressionner en envoyant une armée les combattre chez eux. Alors que les Romains, c'était une des plus grandes puissances de la terre à l'époque. Une des plus grandes puissances. Donc Nabi alayhi salam a préparé une armée. Il a mis à la tête de cette armée Usama ibn Zayd, radiallahu anhu. Il avait 18 ans seulement. Et dans l'armée, il y avait Abu Bakr, Omar, Uthman, et ainsi de suite, parmi les compagnons. Il y avait les grands compagnons. Lakin, le dirigeant, l'émir de cette armée, était Usama ibn Zayd, radiallahu anhu, qui avait seulement 18 ans. Et avant la sortie de l'armée, un Nabi alayhi salam est décédé. Et après, ce qui s'est passé après que Abu Bakr ait succédé à la gouvernance et est devenu le calife. Il a été choisi par les compagnons comme calife des musulmans. Il y a eu plusieurs tribus autour de Médine qui ont apostasie. Les raisons de leur apostasie étaient nombreuses. Il y en a qui ont suivi certains de leurs tribus qui ont prétendu être des prophètes. Il y en a qui ont apostasie par rapport à Zakat. Ils ont refusé d'acquitter la Zakat. Ils ont renié son obligation. Et d'autres raisons. En tout cas, ça s'est produit après la mort du prophète Aïssa. Donc, les compagnons se sont concertés avec Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Ils ont dit, on ne va pas faire sortir cette armée. Pourquoi ? Parce que si jamais on fait sortir l'armée, ils savaient que ces tribus qui ont apostasié se préparaient à attaquer Médine et attaquer les musulmans. Donc ils ont dit, non, on ne sort pas l'armée, on ne sort pas nos guerres et nos soldats et on laisse Médine sans protection. Abu Bakr, donc la raison, qu'est-ce que dit la raison ? Dit qu'ils ont raison. Naam. Parce que ça va affaiblir les musulmans à Médine. Lakin, Abu Bakr y réfléchit d'une manière différente. Abu Bakr, quand il a un texte, quand il a la révélation, il ne se pose plus la question. Radiallahu anhu. Il leur a dit, jamais je n'aurai empêché la sortie d'une armée que le Nabi s'apprêtait à envoyer. Et effectivement, il a ordonné, et les compagnons, quand ils ont vu sa détermination, car les compagnons, Omar et les autres compagnons, radiallahu anhu, quand ils voyaient Abu Bakr déterminé dans une affaire, ils savaient que c'est la vérité, comme a dit Omar. Quand ils voyaient Abu Bakr déterminé sur un point, ils savent que c'est la vérité, même si lui, il n'est pas convaincu, de par son raisonnement. Ils savent qui est cet homme. C'est Abu Bakr Siddiq, wa ma adraka ma Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu arda. Et donc, quand ils ont vu qu'il est déterminé, ils ont dit d'accord. Et l'armée est sortie. Après la sortie de l'armée, qu'est-ce que les tribus, qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Ils se sont dit, les musulmans doivent être encore très forts. S'ils ont sorti une armée aussi grande que celle-là, c'est qu'ils doivent avoir beaucoup de renforts encore à Médine. Et donc, ils étaient impressionnés de cette manière-là. Et l'armée est sortie, elle a impressionné les Romains, elle est revenue, et après, Abu Bakr a décidé de combattre toutes les tribus qui ont apostasié jusqu'à ce qu'ils reviennent à l'islam. Et toutes sont revenues à l'islam, alhamdoulilah. Et Musaylim al-Kadhab, cet imposteur qui a prétendu être un prophète, a été tué. Et la plupart de tous ceux qui ont prétendu être des prophètes, leur nombre était de 3 ou là de 4, tous ont été tués et leurs tribus sont revenues dans l'islam. Et l'islam s'est renforcé de cette manière par cette décision sage de Abu Bakr Siddiq que peut-être un chef de guerre aujourd'hui ne fera pas. Lakin, avec la foi, c'est comme ça qu'on agit. Allah t'a dit de faire, tu fais. Et c'est ça le bien. Car le bien, c'est d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Le bien, c'est pas de laisser une maison à tes enfants que tu achètes avec riba. Pour assurer leur avenir, pour les protéger. Le bien, c'est pas d'acheter une maison avec riba, parce que payer des loyers, c'est jeter de l'argent en l'air comme ça. Ça, c'est ce que ta raison et Shaitan te dit. Lakin, la révélation te dit, c'est pas ça le bien. Et si tu le fais, tu vas comprendre. Lakin, peut-être que ça sera trop tard. Il n'y a qu'à voir les familles qui sont rentrées dans le riba, les épreuves qu'ils traversent. Et je n'ai jamais rencontré une famille qui a fait riba sans qu'ils disent « Anna, leur vie avant riba était meilleure que leur vie après riba ». Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala le dit clairement dans le Coran. « Yamhaqullahu riba ». Le halal, il a toujours été difficile. C'est pas comme le haram. Le haram, c'est facile. Le paradis est entouré de difficultés. Et l'enfer est entouré de facilités. Donc il faut que tu t'habitues. Anna al-halal, c'est toujours plus difficile. Ça demande toujours plus de patience. tu ne gagneras pas comme ceux qui font le haram. Tu ne te compares pas à eux. Lakin, dans le profit, tu es bien meilleur que eux. Tu gagnes 10 euros, tu manges, Allah te met le baraka dedans, c'est bénéfique pour toi, pour ta santé, et tu dors tranquillement. Dans la nuit, tu dors tranquillement. Halal. Et à Allah, les conséquences seront bonnes. Mais celui qui est dans le haram, il a peut-être plus d'argent dans les poches, lakin, est-ce que c'est profitable pour lui? Est-ce que c'est profitable ou c'est sa première source de malheur, cet argent qu'il détient? Donc, il faut qu'on apprenne à raisonner de cette manière. Annana, quand il y a les ordres d'Allah, on se pose plus la question. Juste, faut s'assurer de la bonne compréhension de la mise en application de l'ordre d'Allah. C'est ça qui est demandé. De t'assurer que Allah subhanahu wa ta'ala veut que tu appliques cette chose de cette manière. Une fois que tu es sûr, tu ne te poses plus la question. Maintenant, on peut mal interpréter l'ordre d'Allah et croire que c'est comme ça qu'on doit agir, alors que non. Et pour ça, on a besoin de revenir aux hommes de science et à la bonne compréhension. Donc, finalement, on va laisser ce point, inshallah ta'ala, pour la prochaine rencontre. Barakallahu fikum. وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته